Et l'heure du LEM a sonné. La quotidienne de Transistor, c'est du lundi au vendredi. Aujourd'hui, l'avenir du centre de formation agricole de Kerlivert.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, avec un lieu qu'on a suivi depuis longtemps sur ces ondes. Forcément, c'est à côté, c'est à Anvec, le centre de formation des apprentis, CFA, et centre de formation professionnelle et de promotion agricole, CFPPA, qui est installé au manoir de Kerlivert, un joli bâtiment des 15e et surtout 16e siècles. En fait, ça fait plus de 100 ans, depuis 1884, qu'on y forme des jeunes et moins jeunes à l'agriculture. À l'époque, en 1884, Kerlivert a même été la première école d'enseignement agricole de France à accueillir des filles. Dès l'âge de 12 ans, elles pouvaient venir suivre une scolarité de 3 ans gratuite. Depuis, bien sûr, le centre de Kerlivert a quelque peu changé. Il fait toujours partie de l'enseignement public agricole dans un ensemble qui rassemble aussi le lycée de l'Aulne à Châteaulin et celui de Sucigneau à Morlaix. C'est la région Bretagne qui est chargée de la gestion de cet ensemble, de ces établissements, et qui a annoncé le 4 juillet 2025 qu'elle abandonnait le financement du site de Anvec pour se recentrer vers le lycée de Châteaulin en particulier. Aujourd'hui avec nous, il y a des représentants du comité de soutien de Kerlivert qui ne sont pas assommés, qui sont là. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Est-ce que vous pouvez déjà nous dire qui vous êtes ?
Je m'appelle David Moilic, je suis enseignant en aménagement paysager écologique depuis 2015 à Kerlivert et donc, oui, membre du collectif pour essayer de faire durer ce lieu le plus possible.
Moi, je suis Emmanuel Lagadou, donc Manu, souvent. Et moi, je suis formateur en agroéquipement, donc tout ce qui est mécanique et conduite machine.
Depuis longtemps aussi, à Anvec ?
Oui, depuis 20 ans à Kerlivert.
Ouais. Le comité de soutien, c'est... alors c'est pas une association encore, c'est un collectif, c'est ça ?
C'est un collectif.
Oui, et donc qui regroupe qui, en gros ?
Il regroupe une grande majorité du personnel de Kerlivert. Pour l'instant, il y a que des membres de Kerlivert dans ce collectif.
Alors, il faut nous décrire, pour les gens qui ne connaîtraient pas, ce qu'est Kerlivert. J'ai dit vite fait, bon, c'est un centre de formation, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Quel type de formation ? Puis c'est grand en plus, donc allez-y, racontez-nous.
Alors, Kerlivert, oui, c'est un centre de formation qui existe depuis longtemps, comme vous l'avez dit, et on forme essentiellement des gens au métier du paysage, donc du CAP au BTS, et puis on forme aussi des gens en forêt, en maraîchage, en élagage.
Oui. Voilà.
On forme, on a à peu près 250 apprenants par an, plus toutes les formations qu'on dispense à côté pour les entreprises, les particuliers, les ESAT.
Ah oui.
Où là, il y a à peu près 450 personnes passées par an.
Ah oui.
Chez nous. Et les plus petites formations, on va dire, c'est aller une demi-journée, une journée, jusqu'à plusieurs années pour des formations longues, BTS ou Bac Pro, par exemple.
Ouais.
Et au-delà de l'enseignement, effectivement, il y a aussi une mission qui nous est extrêmement importante. C'est les valeurs écologiques que nous développons et qui donnent aussi notre identité. C'est-à-dire qu'on est à la fois une école qui privilégie le travail manuel et en même temps un site écolabellisé.
Oui, ça veut dire quoi, ça, un site écolabellisé ?
Écolabellisé, ça veut dire que... En 2012-2013, il a été décidé de réfléchir à l'écolabellisation du centre de formation, c'est-à-dire que on voulait obtenir un label pour la simple et bonne raison qu'on voulait faire estampiller nos formations éco-jardinage. D'accord ? Donc on n'a pas le droit de modifier l'intitulé du diplôme, mais on a le droit de rajouter tout ça. Et on s'était dit que pour donner encore plus de corps et de légitimité à cette démarche, il fallait qu'on puisse prouver qu'au-delà des salles de cours, on met les choses en application. Et on est donc écolabellisé, ce qui nous permet d'être hébergé par effectivement une association nationale qui s'appelle Planter Cité et qui vient nous auditer tous les 5 ans maintenant. Et donc on a eu ce label à nouveau en 2025 pour les 5 ans à venir. Et c'est quelque chose qui pour nous est essentiel parce que ce qu'on dit pendant nos cours, on l'applique sur notre terrain, notre joli terrain de jeu de 42 hectares.
Oui, c'est ça, parce que c'est pas rien, car l'hiver, c'est, je l'ai dit, donc ce manoir que vous entretenez, enfin, c'est vous-même, entre guillemets, les habitants, enfin, c'est pas un internat, s'il y a quelque chose.
Non, il n'y a pas d'internat.
Ouais, et donc, c'est les personnes qui travaillent dedans qui l'entretiennent, c'est ça. et le domaine aussi.
Oui.
C'est le contrat, quoi.
Oui, oui, oui. Et c'est ce qu'on se disait avec Manu tout à l'heure en arrivant ici, c'est que non seulement, effectivement, la gestion du domaine est réalisée par le personnel, qu'il soit enseignant ou non, et les élèves, mais en plus de ça, il y a une partie des ouvrages qui ont été fabriqués par le personnel aussi. Évidemment, on n'était là ni au 15e ni au 16e siècle, donc pour les pierres, on n'y a pas trop touché. Mais pour le reste, le plateau technique, qui est cher à notre cœur, a été réalisé par le personnel qui s'est succédé depuis 30-40 ans.
Ouais, le personnel et les apprenants, oui. Chacun apporte sa pierre. Et puis, du coup, c'est vrai que là, actuellement, on a un outil de travail... moi, je trouve exceptionnel, quoi.
Oui.
Et qu'on nous envie avec les collègues des autres écoles ou des autres régions, hein, quand ils passent chez nous.
Oui, oui, oui. C'est...
Disent, oh, vous avez ça, vous avez ça.
Clairement, clairement. Et puis, on inscrit souvent nos élèves au concours du meilleur apprenti de France, etc.
Et les concours, d'ailleurs, se déroulent aussi chez
voilà,
vous.
Voilà, c'était pour illustrer le fait que notre plateau technique est quand même reconnu. C'est que ça fait 3 ans d'affilée, voire 4 ans d'affilée, qu'on organise l'épreuve départementale du meilleur apprenti de France. Ouais. Et à chaque fois, c'est pas un choix de dernier recours. C'est la priorité que d'accueillir les apprenants et les candidats dans notre plateau technique parce que il est reconnu de qualité.
Donc, vous avez toute votre place, évidemment, à Carlivert. Et alors, Carlivert, donc le domaine, les bâtiments sont possédés par la mairie de Anvec, qui n'est quand même pas une grosse commune, hein, faut bien dire ce qui est, qui, j'imagine, est bien contente que vous en occupiez. Et en revanche, donc, pour ce qui est du fonctionnement de l'enseignement, c'est la région qui finance. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé le 4 juillet exactement, en fait ?
Eh bien, ce qui s'est passé le 4 juillet, c'est que ce qui était jusqu'alors uniquement une rumeur est devenu réalité, à savoir que la région Bretagne, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, assurait la gestion du domaine, a officialisé son désengagement. C'est-à-dire que notre singularité est devenue notre plus grande faiblesse. C'est-à-dire que c'est singulier d'avoir une école publique possédée par une commune, mais si on n'a pas effectivement l'engagement de la région, eh bien on ne peut pas faire suivre les formations aux différents apprenants. Donc en début juillet, il a été officialisé effectivement le fait que la région a décidé de fermer le site en tant qu'école et a officialisé également le transfert au départ progressif. C'est ce qui était prévu, le transfert progressif des formations dans les 2 autres entités de l'EPL, donc de notre établissement public local, que sont du coup le lycée de Sucigneau à Morlaix et le lycée de L'Aulne à Châteaulin.
Mais pour autant, vous avez quand même fait des portes ouvertes, par exemple à Carlivert en mars, là. Donc vous n'allez pas fermer à la fin de l'année, c'est ça en fait qu'il faut bien qu'on comprenne.
Complètement, et c'est ce qui nous a causé beaucoup de tort ces derniers temps, c'est que le 4 juillet, beaucoup de gens, on pensait que Carlivert allait fermer tout de suite. Or, il avait été acté que la fermeture allait se faire de manière progressive jusqu'à 2029-2030. La date est toujours restée un peu floue, mais on avait une latitude de quelques années pour réagir.
Parce qu'il y avait un projet de construction à Châteaulin parallèle, quoi, c'est ça, enfin, notamment.
Qui est toujours d'actualité.
Là. Ok, oui.
Et effectivement, on nous avait dit, vous allez rester à Carlivert en grande partie, le temps de la construction des locaux qui sont censés vous accueillir après.
Mais donc, par exemple, il y aura une rentrée là, en septembre, enfin, je ne sais pas quand est-ce que vous rentrez exactement.
Oui,
mais,
c'est notre priorité absolue là. C'est-à-dire que nous, effectivement, la survie de Carlivert est pour nous quelque chose de quasi viscéral. On est tellement attaché à ce centre-là. Mais effectivement, notre priorité là, actuellement, est de faire savoir que la rentrée prochaine se déroulera à Carlivert. Et donc, effectivement, on a fait 3 portes ouvertes déjà et on a la 4e qui arrive bientôt, qui aura lieu le 30 mai et pour laquelle on veut réellement faire un événement parce qu'on a plus que tout envie d'ouvrir en septembre à Carlivert.
Ben oui, parce qu'en fait, imaginons qu'il y ait un raz-de-marée d'élèves, enfin d'inscrits, ça pourrait, vous pensez, faire basculer la décision de la région
Ça pourrait, oui, ça pourrait aider.
Ouais.
Ouais. Bah, le problème, c'est toujours le même. Hein. C'est le nerf de la guerre. Donc effectivement, plus on aura d'élèves, plus il y aura de financement.
Oui, ouais, parce que la région, ce qu'elle a dit, c'est qu'il n'y avait plus de sous, en gros, c'est ça le...
Alors enfin, en gros, faire vite. L'objectif de la fermeture, il est pas si direct que ça. C'est qu'effectivement, le premier élément, effectivement, c'est de dire que nous sommes une école atypique. Et ces particularités qui peuvent faire notre force à certains égards sont aussi potentiellement en train de creuser notre perte. Parce qu'on nous dit que c'est pas facile de faire des cours dans un manoir, qu'on peut pas faire de travaux, qu'il y ait des charges de structure qui sont importantes. Et en même temps, tous les gens qui sont déjà passés à Kerlivert savent qu'il n'y a pas de meilleur lieu pour dispenser les formations que nous dispensons que lui. Mais effectivement, financièrement, d'après nos dirigeants, ça n'est pas possible de continuer. Après, il y a aussi l'argument qui est avancé dans toutes les instances auxquelles nous faisons partie, c'est qu'effectivement, il y a aussi la problématique des lycées, qui va devenir une problématique dans les années à venir avec la baisse démographique. Et
oui,
cet argument-là,
ça.
Il est très souvent... Bah oui. Mis en avant.
Pas que pour les lycées d'ailleurs, pour les collèges, pour tout.
C'est ça. Mmh. Et donc effectivement, plus que les problèmes financiers de Kerlivert, c'est aussi et surtout la survie des lycées qui, entre guillemets, qui serait en jeu. Et nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec cet argument.
Bah déjà, vous êtes un lycée agricole, enfin, c'est pas alors, déjà, n'importe quel lycée, quoi. Voilà. Ouais.
Exactement. Et puis, la baisse démographique, c'est un élément de la statistique. Mais on en parlait aussi, avec le réchauffement climatique et toutes les problématiques qu'il y a, on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait une migration de personnes qui sont en délicatesse avec les températures trop élevées et qui voudraient rejoindre des régions plus douces, comme la Bretagne. Donc, il reste encore à prouver que cette démographie va impacter nos lycées bretons.
Oui, c'est évidemment, c'est de la prévision. Quelles sont les vous parliez des forces de Kerlivert, enfin en termes de professionnels. Donc vous disiez le plateau technique. Il y a le fait qu'il y ait beaucoup d'arbres. Enfin pour les formations forestières, c'est important aussi, non? C'est quoi les atouts, les autres atouts? L'écolabel, bien sûr. Enfin.
Ben, il y a le fait que toutes les générations de formateurs et d'élèves soit toujours intervenu sur le site pour le mettre en valeur. Et là, on a un outil de travail actuellement qui est hors du commun pour les spécialités qu'on fait.
Oui, ce que n'ont pas les deux autres, Morlaix, Sucigneau, Morlaix et le lycée de Lune, c'est des sites très différents. Hein,
oui, c'est très différent et moins adapté, je pense, au travail que nous, on fait. Nous, on est quand même très orientés sur le travail manuel. Il y a plein de gens qui viennent chez nous, qui s'épanouissent et... Je pense que ça, c'est peut-être plus difficile à mettre en place ailleurs.
Mmh. Oui, oui. Et puis, il est important de rappeler que nous, dans notre combat, on ne veut pas faire souffrir le lycée de Sucigneau ni le lycée de L'Aulne. Hein. Mais effectivement, et ils sont d'accord avec nous sur certains de ces points-là, nous, on est particulièrement adaptés pour faire du maraîchage biologique, par exemple. Ce que le Léon Légumier est moins.
En termes de territoire, vous voulez dire.
En termes de territoire, mmh. et puis on parlait du plateau technique, mais on enseigne l'écolabel. Et quand je vois des élèves qui sont au bout parce qu'il y a un cours qui est un peu plus difficile pour eux et qu'on entend au milieu de tout un chant d'oiseaux, il suffit d'ouvrir la fenêtre et leur dire, ben voilà, on va aller dehors 5 minutes et puis on va faire une initiation au chant d'oiseaux. On a tout pour effectivement enseigner ce qu'on enseigne, que ce soit technique ou plus poétique comme l'écolabel notamment, et faire travailler nos élèves à des projets durables. C'est-à-dire que ça, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que nos élèves reviennent sur le site régulièrement, voire même en deviennent formateurs parce que c'est mon cas. Je suis un élève de Kerlivert et j'ai eu Manu en prof à l'époque, donc en formateur. Donc, il y a quelques générations d'élèves qui sont devenus formateurs et qui aujourd'hui encadrent des apprentis et des stagiaires après avoir été élèves eux-mêmes là-dedans. Donc, c'est tout ce continuum aussi qui peut se briser.
Il y a quand même de l'extérieur, en tout cas, des faiblesses du site, enfin, si on peut dire, c'est son accessibilité. Enfin, justement, si on peut pas dormir sur place, enfin, c'est un peu compliqué. Il y a pas des lignes de bus, de train, de proximité pour arriver à Kerlivert, non? Est-ce que c'est un frein, ça?
La gare la plus proche pour nous, c'est Châteaulin. Il y a une navette entre Kerlivert et Châteaulin tous les jours.
Et qui est-ce qui la finance, la navette, alors?
C'est nous.
Oui, c'est ça.
Sur fonds propres aussi.
Oui, ok. C'est pas la région vraiment directement.
Non, c'est pas la région qui finance.
Mais effectivement, on peut croire comme ça qu'on est isolé et qu'une école isolée, c'est pas si évident que ça. C'est pas évident, c'est un fait. Il y a ce point faible, entre guillemets, même s'il n'y a aucun apprenti qui se plaint de devoir prendre le car le matin et le soir. On accueille un public, que ce soit les formations continues, donc des personnes qui ont déjà fait un morceau de carrière et qui veulent se reconvertir, et qui n'ont pas envie d'une école classique. Et on accueille aussi des apprentis qui, pour eux aussi, ça a pu être difficile, l'école. Et ce cadre qu'on leur offre, c'est une sérénité qui dépasse très largement la petite contrainte que d'être isolé. Et puis, en parlant d'isolement, on est pile poil à la croisée entre Brest, Quimper et Morlaix, sur un territoire où il n'y a plus d'école agricole. Hein, c'est que vous disiez tout à l'heure qu'on est la première école féminine d'agricultrice de France.
En 1884.
C'est ça. Et, mais on est aussi la dernière école agricole du secteur Landerneau, etc.
De la communauté de communes Pays Landerneau-Daoulas.
C'est ça. Ouais. Donc c'est vrai que...
Mais d'ailleurs, vous faites une navette depuis Châteauneuf, mais pas depuis la gare de Dirinon ou de Landerneau, pour les élèves. Non. Ouais, bon, ok.
Après, on a du mal à avoir la main là-dessus. Nous.
Ouais, j'imagine que vous avez étudié la chose. Ouais.
Oui, et puis là, quand on voit tous ces éléments de contingence, on voit aussi la direction que prend notre société. C'est que c'est une autre manière de voir les choses que de vouloir recréer du lien par des circulations différentes et collectives, par occuper le maillage territorial, par le côté, la circularité de l'économie et tous ces éléments-là, ce sont des choses qu'on défend au quotidien. Et là, effectivement, c'est une très, très grande frustration parce qu'on se sent un peu empêché.
Mmh. Ouais, vous nous parlez d'aménagement du territoire, tout simplement. Oui. Donc, votre comité s'est constitué, j'imagine, assez vite, non ? Oui, votre collectif, ouais.
Passer la sidération, oui, il a été évident pour nous que ce soit uniquement collectivement que ça puisse se résoudre. Et on a aussi besoin de soutien et de se soutenir nous-mêmes, puisqu'on fait notre travail toujours et le plus possible et le plus longtemps possible.
Vous enseignez toujours, voilà.
Et en plus de ça, on se bat avec nos modestes armes pour essayer de faire connaître tout ça. Donc pour nous, il était absolument indispensable de créer ce collectif pour priorité faire savoir qu'on est encore là.
Et alors, qui est-ce que vous avez rencontré pour plaider votre cause ? Enfin, déjà, peut-être la mairie, je suppose, de Henvec.
On est effectivement en contact avec la mairie d'Henvec, puis des associations et des entreprises aussi, parce qu'on est une école implantée, vu le temps qu'on est là, effectivement, on est très implanté et on a énormément de contacts avec les entreprises. Hein. On a plus d'une 150 apprentis, ce qui fait que autant de contacts, mais aussi toutes les associations, puisque nous, en tant que site écolabellisée, on est aussi un territoire intéressant pour les associations naturalistes de Bretagne, comme la LPO, Bretagne Vivante, le groupe Mammalogique Breton, avec qui nous travaillons tous les ans pour les inventaires.
Vous avez des nids à chauves-souris, non, c'est ça?
Oui, et pour le coup, c'est une autre singularité, parce qu'on était une zone test avec les nichoirs, avec le groupe Mammalogique Breton, et la barbastelle, qui est une jolie espèce de chauve-souris, pour la première fois, il y a une nurserie qui s'est faite dans un des nichoirs, alors que ça n'est jamais arrivé encore. Donc là encore, il y a un petit...
C'est pas dans le grenier du manoir, là, pour le coup.
Non, c'est dans... Alors, pour le coup, c'est dans le hangar à maçonnerie, au-dessus de la porte, où il y a l'inventaire, ce qui prouve qu'on peut tout à fait faire cohabiter les humains et les non-humains dans un même endroit.
Et vous êtes allé plaider votre cause à la région, quand même ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?
Ils n'ont pas changé d'avis. Hein. Mmh. Après, sur le collectif, c'est vrai qu'on revendique assez peu. On essaye plus de faire connaître qui on est, ce qu'on fait, de mettre en valeur tout ce qui a déjà été mis en place. Et puis, c'est plus ça qu'on revendique. Quoi.
Ouais.
De ne pas casser un outil. Après,
et bien faire comprendre qu'on vous recrute encore des élèves, voilà, qu'on peut s'inscrire.
Ouais. Et que et faire connaître et faire savoir qu'on est là et que... Voilà, que les gens s'épanouissent, qu'il y a du débouché derrière. Enfin,
oui, parce que c'est ça aussi les débouchés, il faut peut-être le dire. Enfin, c'est-à-dire que c'est une autre vision de l'agriculture, mais qui va, on espère en tout cas, gagner du terrain.
Ah ben, et puis de toute façon, ça va être une nécessité absolue.
C'est ça.
C'est-à-dire que quand on voit la direction que prend notre monde économique, avec des métiers qui vont peut-être être grignotés par exemple, l'intelligence artificielle, avec tous les dérèglements climatiques et tous les éléments qui nous tombent dessus depuis déjà un moment, mais qu'on n'a pas toujours su voir, ce qu'on enseigne est d'autant plus important aujourd'hui et essentiel, puisque nous, en fait, quand on, comme dit Manu, on ne revendique pas grand-chose, à part le fait de faire notre travail, c'est juste ça, et puis de pouvoir faire entendre cette voix, c'est-à-dire qu'il va falloir former massivement, pour paraphraser un collègue, il va falloir former massivement à la gestion écologique des espaces, ouais, au maraîchage écologique, ouais, à la gestion des forêts
durables. Oui, la forêt, justement, alors vous n'êtes pas forestier ni l'un ni l'autre, mais c'est ça, enfin, on voit avec les feux de forêt qu'on a eus, est-ce qu'il y a une autre façon d'apprendre à gérer les arbres, et c'est important de le savoir.
Mais quoi. Clairement, et puis évidemment, la gestion durable des déboisements, c'est quelque chose, tant économiquement qu'écologiquement, est indispensable. La gestion intégrée des eaux de pluie, aussi, la gestion du bocage, la frugalité des aménagements, la circularité, tout ça, c'est des choses pour lesquelles on est reconnu, et que cette voie-là s'éteigne, pour nous, ça nous fait vraiment très très mal, bien au-delà de la perte éventuelle de nos emplois. C'est vraiment quelque chose qu'on a chevillé au corps comme une conviction vraiment féroce.
Et elle ne pourrait pas se reporter correctement, de votre point de vue, sur les sites de Châtelain et de Morlaix ?
Il faudrait reconstruire beaucoup de choses, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est dommage de casser un outil qui existe.
Ouais, c'est pour ça que vous dites que ça coûterait de l'argent, finalement, c'est ça ?
Oui, je pense qu'on fait partie de la manière d'enseigner, une des moins coûteuses.
Ouais. Bah oui, on a été habitué à faire avec peu. Vu qu'on n'appartient pas à la région en tant que site, il y a eu peu d'investissements de réaliser dessus. Donc nous, au-delà de nos convictions, ça a été une nécessité. Et donc ça, on sait faire. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, quasiment tous les arbres qui sont à Carlivert dans les 2,5 hectares de jardin que nous avons, c'est nous et nos prédécesseurs qui les ont plantés. Quand il y a des arbres d'une trentaine de mètres à côté, ils étaient là bien avant nous. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas se reconstruire. Hein, on peut pas décider de planter un arbre de 300 ans. On est obligé d'attendre 300 ans.
Et alors, vous parliez de parmi vos soutiens, des entreprises avec qui vous travaillez. Est-ce que, par exemple, l'option d'une privatisation serait envisageable ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben effectivement, nous, on est en train de réfléchir à toutes les possibilités. Ce qui est sûr, en tout cas, d'un point de vue du constat actuel, c'est qu'il y a de plus en plus de formations, parce que l'offre de formation a été privatisée désormais, et qu'il n'y a plus d'entité supérieure qui régit tout ça. Ça veut dire qu'on peut facilement créer une école, mais vu qu'on nous parle de baisse démographique, et ben de plus en plus de formations proposées, mais de moins en moins censément d'élèves, effectivement, on peut se dire que ce n'est pas une bonne solution. Mais la formation continue, par exemple, et l'apprentissage, et on peut faire beaucoup de formations courtes. C'est-à-dire que nous, une de nos forces aussi, c'est d'être capable de proposer des formations sur mesure aux entreprises et aux gens et aux particuliers qui ont les moyens de se financer tout ça. Et on est très, très adaptable. C'est-à-dire qu'on peut faire des blocs de formation, des modules. Et ça, s'il y a un regret qu'on doit avoir, c'est qu'on ne nous ait pas laissé cette chance-là, parce qu'en fait, on nous dit qu'on ferme, mais sans avoir réfléchi, en tout cas, sans nous avoir laissé proposer autre chose. Et on en a des propositions.
Ah oui.
Mais c'est vraiment fin de non-recevoir.
Ah oui. Et quelles sont vos autres propositions qu'on n'aurait pas évoquées encore ?
Celle-là, elle mérite d'être développée, en tout cas. Mais c'est-à-dire que...
Donc spécialiser Carlivert sur les formations plus courtes et modulables, ouais, plus professionnelles continues, quoi.
Oui. Ouais. En tout cas, augmenter très sensiblement la part de ces formations dans notre catalogue global. C'est-à-dire que là, on dépend à 90% des formations dispensées par la région. Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'on nous donne les petits moyens d'avoir une personne à temps plein pour piloter cette offre de formation, et nous d'avoir le temps de les mettre en place, et parce que ça, c'est quelque chose de lucratif et qui pourrait nous faire sortir. S'il n'y avait pas de solution, on ne s'entêterait pas. Un petit peu, mais pas trop.
Mais là, vous savez qu'il y en a, donc bien c'est sûr. Pour ça. Et vous prévoyez d'autres actions ? Alors, vous avez dit qu'il y a une porte ouverte. Enfin, pour vous faire connaître, qu'est-ce que vous prévoyez encore prochainement ?
C'est la porte ouverte du 30 mai, là.
Ouais.
Donc, toute la journée, donc, on est en porte ouverte. Donc, on présente nos formations. Et en même temps, l'après-midi, il y a une animation sur la visite des jardins, la visite du site, avec, entre autres, David Happ.
Et puis, alors, David Happ, qui c'est ? dites-nous.
C'est un arboriste de l'hôpital Canfrout qui est assez spécialiste dans son domaine, qui est le diagnostic des arbres, et avec qui on travaille régulièrement. Donc effectivement, il va venir avec moi et on va tous les deux faire des visites guidées du domaine sur une thématique qui est pour le coup dans l'air du temps, puisque sur la résilience et la robustesse. Donc ça va être une visite guidée comme ça, une espèce de conférence délocalisée où on va se balader avec le plus de monde possible, on espère. Mais il y aura aussi des initiations à l'affûtage des outils, par exemple, des gestes qui s'oublient parfois, que Manu va pouvoir faire. Donc voilà, entre autres. Hein. Donc l'idée, c'est réellement de faire une porte ouverte un peu événement pour... Ouais.
Qui montre vraiment ce qu'est Kerliver,
c'est ça, et
toutes les facettes voilà, possibles. Quoi.
Voilà, ouais. Recruter ce jour-là le plus possible pour consolider nos formations pour l'année prochaine.
Il n'y a pas quand même de nouvelles formations qui vont s'ouvrir en septembre, si non?
Alors, il n'y a pas de... Il y a une formation qui avait été fermée, hein, par manque supposé d'effectifs, et qu'on espère voir réouvrir, qui est le BTS TC, donc technique de commercialisation. C'est toujours très difficile de réouvrir une formation qu'on a précédemment fermée.
Disons que là, vous avez de la concurrence en plus dans d'autres,
oui,
établissements.
Pour c'est ça,
coup,
mais ouais. En tout cas, voilà, mmh. On ne perd pas forcément espoir. Mais nous, oui, voilà, notre objectif, c'est ça. Et puis, comme aujourd'hui, on veut vraiment faire connaître cette problématique parce qu'un jour, je sais que la société regrettera d'avoir fermé des écoles qui avaient cette spécialité.
Donc, Kerliver continue, en tout cas, pour l'instant. Venez nombreux le 30 mai. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans cette émission. Et puis, ma longue vie à Kerliver, on va le dire quand même.
Merci beaucoup pour l'accueil.
Et on pourra réécouter cette émission sur le site internet de Transistor. À bientôt, au revoir.